Et nous en sommes à la face B de la deuxième cassette, et je reviens sur le point dont il était question il y a un instant, et je cite Jean 16, 13. « Lorsque viendra l'Esprit de vérité, il vous fera accéder à la vérité tout entière, c'est-à-dire qu'il continuera à nous faire mieux comprendre la vérité livrée par Jésus. » Et je continue, « Car il ne parlera pas de son propre chef, mais il dira ce qu'il entendra, et écoutons bien. Il vous communiquera, vous dévoilera ce qui doit venir, les choses à venir. Qui maintenant, avec assurance, peut nous dire que nous n'en sommes pas là? Sur quelle preuve peut-on s'appuyer pour affirmer que présentement, l'Esprit ne peut pas, ne doit pas, n'est pas en train, précisément, de nous dévoiler, révéler, préciser, à la demande du Père et de Jésus, des choses qu'il entend et qui sont à venir? » C'est l'une de ces quatre grandes missions de l'Esprit-Saint, déjà prophétisé, annoncé par Jésus il y a 20 siècles, en plus des trois autres missions, celles de docteur, de souffleur et d'interpellateur, il a celle de précurseur révélateur des choses à venir, c'est-à-dire des choses qui se réaliseront en fonction de ce qui s'accomplit en Jésus, comme le précise une note de Tobe. Bref, le Big Bang spirituel respecte à 100% et confirme à la fois les deux textes de l'enseignement traditionnel et biblique toujours professés en Église, à savoir, Dieu seul est maître absolu d'en déterminer l'heure et le jour. À nous donc de veiller, prier et d'avoir nos lampes allumées. Le Père, est-il annoncé, recourra à l'Esprit pour révéler ce qui va venir et dévoiler les choses à venir. Je voudrais maintenant faire une deuxième considération. Et ici, je le précise, j'émets une pure hypothèse. Elle ne fait pas partie de ma proclamation prophétique comme telle, mais correspond à une profonde inspiration, conviction qui ne me quitte pas et que je sens le devoir de vous partager. Le Père, présentement, déverse son amour et sa miséricorde encore plus que jamais, pour que les missions bien connues de Jésus et de l'Esprit aient de plus en plus de succès dans les cœurs, les esprits, les âmes de ses enfants. Il voit donc, plus que quiconque, la grande détresse de ses enfants de plus en plus enlisés dans le mal, manipulés et dominés par les forces adverses. Mais ne l'oublions pas, il voit également que les justes dans son peuple n'en peuvent plus. Déçus et sevrés qu'ils sont par une Église et un monde qui sont tous deux en déclin. Ils voient que leur espérance et leur foi sont de plus en plus menacées et assaillies. N'est-il pas juste et raisonnable alors, et même sage et louable, de penser que le Père, voulant exprimer son grand amour et son infinie miséricorde, et en quelque sorte, voulant faire d'une pierre deux coups, ait décidé que l'heure est venue de faire une mini-révélation partielle, le d'ici l'an 2000, pour, à la fois, d'une pierre deux coups, donner une nouvelle chance aux endormis d'aller allumer leur lampe, et en même temps, donner un souffle nouveau à l'espérance et à la foi des fils et filles justes et avisés qui, eux et elles, veillent, prient, attendent désespérément. Ainsi, en révélant un nouvel élément partiel, un indice de plus, Le suspense demeure toujours, ne s'en va pas, il augmente même, mais au bénéfice de tous, tant des justes que des non encore prêts. Pour moi, mes amis, c'est clair et net, c'est plus que plausible que c'est ce qu'il a fait. C'est une autre expression de son amour et de sa miséricorde que seuls ceux qui ont leur RCA grand ouvert peuvent capter, décoder et apprécier. Alors qu'aux sages et intelligents, cela demeure et demeurera encore caché. Troisième et dernière considération sur cette soi-disante objection. Dans ces paraboles, cela m'impressionne et me ravit toujours, Jésus prévoit tout. Il ne met jamais un détail de plus sans raison. Il n'omet jamais rien non plus. L'Esprit-Saint qui nous conduit vers la vérité tout entière se charge de nous en faire découvrir souvent le sens et la portée, mais en temps opportun. Ainsi, à l'occasion de la proclamation du Big Bang spirituel, l'Esprit du Seigneur a vivement attiré mon attention sur le verset 6 de la parabole des 10 vierges, en Saint Matthieu, chapitre 25, versets 1 à 13. Et je vous lis ce verset 6, qui bien souvent passe presque inaperçu, ou du moins, auquel on s'arrête très peu pour le commenter. Je cite, « Au milieu de la nuit, donc en pleine ténèbre, un cri retentit. Voici l'époux, sortez à sa rencontre. » Or, on sait que ce n'est pas l'époux lui-même qui a crié « Me voici !» Mais un cri a précédé son arrivée et son apparition. Un genre de dernier avis aux intéressés. Le verset 7 suivant confirme d'ailleurs, et je cite, « Toutes ces jeunes filles se réveillèrent, les insensées comme les avisées, et apprêtèrent leurs lampes. » Donc les deux groupes, les sages et les moins sages, s'étaient endormis. Et le cri au milieu de la nuit a rendu service aux deux groupes. Et c'est alors que les unes ont constaté qu'elles étaient prêtes et que les autres, elles, ne l'étaient pas. Leur lampe manquait de l'essentiel. Mon attention attirée sur ces deux versets, l'Esprit du Seigneur m'a inscrit dans le cœur deux importantes réflexions et applications à la réalité de nos vies actuelles, et je vous les partage. La première, le cri au milieu de la nuit, donc ce tout dernier rappel, cet avertissement ultime de dernière minute, c'est ce que la Vierge, les prophètes et la multitude des porte-paroles du Seigneur de notre temps sont bel et bien en train de faire. Leur cri est dans la nuit et les ténèbres du monde et de l'Église en leur état actuel, où aussi bien les bons que les moins prêts risquent de s'endormir. Et dans sa bonté, Dieu permet ce cri dans la nuit qui dit « Voici l'époux, sortez à sa rencontre ». C'est-à-dire, il est tout proche. Vérifiez vite une dernière fois si vous êtes tout prêt à l'accueillir. La deuxième réflexion et application, le veiller et prier n'est pas seulement un wait and see passif, un attendons voir ce qui va arriver, mais c'est au contraire un acte dynamique dans le sens de tenez-vous prêt, Matthieu 24, 44, vérifiez continuellement si tout est en ordre en vous et autour de vous. C'est donc tout le contraire d'un avis amortisseur, d'une dose de tranquillisant comme beaucoup d'hommes et de femmes d'Église donnent actuellement. C'est bien plutôt ce cri dans la nuit, un « réveillez-vous, endormis que vous êtes, alertez-vous les uns les autres, secouez-vous pour de bon, et surtout, sortez à sa rencontre. » personnellement, mes frères et sœurs, comme je trouve triste cette attitude d'hommes et de femmes qui, présentement, parce qu'ils n'ont pas la foi et l'écoute de l'Esprit du Seigneur suffisante pour vérifier en direct auprès du bureau chef l'authenticité de ces prophéties, et n'ont pas, non plus, par ailleurs, le courage de dire non, tout cela est faux, prennent la responsabilité énorme. Oui, énorme, croyez-moi, et ils devront en rendre compte, de recommander un veiller et prier doucereux, sédatif, qui laisse presque entendre que c'est une fausse alarme. Vierge fine et vierge folle, retournez faire dodo. Je ne voudrais pas porter devant Dieu cette responsabilité d'avoir éteint l'esprit aussi gravement et d'avoir mal guidé les âmes en un moment aussi important et conséquent. Qu'aurait-il ou qu'aurait-elle à perdre que de nous inciter tous, encore une fois, à nous mettre en branle pour encore mieux nous préparer à la venue de l'époux? Nous ne serons jamais trop bien préparés. Et en ces temps pénibles dans le monde et l'Église, le danger de s'assoupir est plus grand et fréquent que jamais, ne serait-ce que pour annuler, fuir, s'évader de tout. Il ne faut pas anesthésier des rappels à l'ordre en Église, à moins d'être absolument sûr qu'ils sont contre l'Esprit du Seigneur, qu'ils sont faux ou dommageables. Et cette certitude, seul l'Esprit du Seigneur peut nous la donner, si bien entendu on le lui demande, avec foi, ferveur et en prenant les moyens d'entendre et de comprendre sa réponse. Alors, on peut intervenir et on doit le faire clairement, mais en son nom à lui et à nos propres risques et dépens à nous. Dans l'incertitude et son propre embarras personnel, on ne sème pas le doute, ni directement, ni indirectement, ni de front, ni par la bande. Vaut mieux alors s'abstenir. Cet ensemble de voix qui crie dans la nuit du monde et de l'Église, « Voici l'époux sortant à sa rencontre », est sans précédent en tous les siècles, est d'une force et d'une concordance exceptionnelle, ne peut s'expliquer que par la mouvance de l'Esprit de Dieu. Car ce cri dans la nuit sort tout le monde de son sommeil présentement, y compris les noms qui réagissent, exige énormément d'amour, de paix et de courage surnaturel de la part de tous ces porte-paroles qui doivent le dire et redire à temps et à contre-temps, combattus sournoisement par tant d'hommes et de femmes, mal entendants et aveugles spirituels, tout en étant parfois, hélas, en titre et en fonction au service de l'Église. L'ami cristallin n'y va pas de main morte quand il veut stigmatiser, dénoncer vertement ou ouvertement nos folles prétentions du genre. Non seulement, dit-il, bien des hommes et femmes en Église ont imposé fortement leur autoritarisme, leur cléricalisme et leur légalisme de haut en bas en Église, au point de dominer parfois, même d'écraser nombre de fidèles, mais voilà que certains ont maintenant le culot d'étendre leur autoritarisme, cléricalisme et légalisme, par en haut, et semblent vouloir préciser du haut de leur tribune à Dieu ce que lui doit ou devrait faire ou ne pas faire, dire ou non. Quelle autre cuidance! Et pour mettre les menottes au Seigneur, il ne se gêne pas pour soit piger des textes bibliques qui leur conviennent et omettre ceux qui nuanceraient joliment le tout, soit donner à un texte un sens restreint et restrictif même, pour mieux l'accommoder à leur propre dire, comme certains viennent de le faire sciemment avec le texte « Nul ne connaît l'heure et le jour ». Passons maintenant à une deuxième mini-objection. Ce n'est pas de l'esprit avec un grand E, puisque ça divise les esprits avec un petit E. Si vous me permettez, je vais relire un extrait de la brochure publiée le 10 juin 1984, intitulée « Église, évangélise-toi toi-même encore davantage », pages 9 et 10. Le sous-titre « Tension inévitable et affrontement possible ». Une mission prophétique, pastorale et communautaire, pour peu qu'elle soit vraiment voulue et guidée par lui, ne laisse jamais les gens indifférents. En effet, le rappel de son message non dilué, à temps et à contre-temps, a le don de déranger, de désinstaller, de remettre en question, d'interpeller, de provoquer, voire même de bousculer. Il ne saurait d'ailleurs en être autrement, puisqu'une telle prédication s'accomplit à la suite de celui qui a admis lui-même être, à cause de ses options, un signe de contradiction, une cause de dissension sur la terre. Et vous connaissez comme moi ce texte de Matthieu 10, 34 à 36. « N'allez pas croire que je suis venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais bien le glaive. Oui, je suis venu séparer l'homme de son père, la fille de sa mère, la belle-fille de sa belle-mère. On aura pour ennemis les gens de sa maison. » Et ce texte de Luc 12, 51-53. « Pensez-vous que ce soit la paix que je suis venu mettre sur la terre? Non, je vous le dis, mais plutôt la division. Car désormais, s'il y a 5 personnes dans une maison, elles seront divisées 3 contre 2 et 2 contre 3. » Et Luc 21-16, Jésus revient sur l'idée de division considérée comme un trait de la tribulation des derniers temps. Vous serez livrés même par vos pères et mères, par vos frères, vos parents et vos amis. Ils vous feront condamner à mort plusieurs d'entre vous. Et je poursuis la citation de la brochure. Nos livraisons de vin nouveau, le sien, et d'autres neuves, les siennes, auront beau se faire comme nous en avons le ferme désir, avec un summum d'amour fraternel, de compréhension et d'à-propos bien discerné et prié, avec un doigté inspiré des anges, si possible, elles ne manqueront pas de susciter fort probablement des tensions, des remous et des affrontements en Église. Il faut donc s'y attendre, c'est tout à fait inévitable, pensons seulement aux réactions que déclenchent parfois les interventions si vraies et opportunes de Jean-Paul II. Et un peu plus loin, je termine la citation par un autre paragraphe, « La subtile tentation de préférer l'apparente tranquillité d'une mer morte aux agitations possibles d'un lac de Tibériade est aussi vieille que la proclamation même de l'Évangile. Le mirage d'une prétendue cordialité qui semble rallier tout et tous, sans déranger personne ou rien, séduit bien du monde, en Église comme partout ailleurs. » Et quand on lit que les familles seront divisées, père contre fils, fille contre mère, etc., cela s'applique à tous les autres types de familles. Familles paroissiales, familles diocésaines, communauté religieuse, mouvement dit spirituel, conférence épiscopale. Un évêque s'est exclamé au lendemain de ses proclamations. Monseigneur Mathieu, avec ses prophéties, a réussi à diviser notre conférence épiscopale. Mes amis, je n'ai créé aucune division dans aucune conférence épiscopale. J'ai simplement contribué peut-être, avec d'autres, à mettre fin à deux choses. L'impression fausse qu'avaient les fidèles que dans une conférence d'évêques, tous pensent de la même manière, agissent et réagissent de la même façon. Cette fausse impression était parfois entretenue et jalousement conservée. Et mettre fin également à l'hégémonie des grands ténors, ces évêques plus loquaces, qui influencent ou dominent souvent les autres dans les conférences épiscopales. Ce qui arrive présentement, c'est que le vrai portrait apparaît, que les faux masques tombent, que les divergences sont là davantage sous nos yeux. Il n'y a pas plus de division qu'avant, mais le jeu de cache-cache est fini ou s'achève. Et il y a de plus en plus de liberté réelle d'expression partout. Passons, si vous le voulez, à la troisième soi-disant objection. C'est toujours la même chose à la fin de chaque siècle. Ça, c'est la meilleure. C'est le bouquet. Imaginez qu'il y en a qui affirment, à la légère, que ce qui se passe actuellement dans le monde ou en Église ressemble à ce qui se passe à la fin de tous les siècles et suscite une même réaction populaire en fait de prédictions, révélations, apparitions, visions, etc. Vraiment, mes amis, ça ne fait pas sérieux. Une telle affirmation dénote ou une perte sérieuse de mémoire quant à l'histoire, ou une grave perte de la vue quant au présent. Je défie qui que ce soit de nous désigner un autre siècle, ou une fin de siècle, où simultanément on a connu d'une part un tel déclin général interne dans le monde et dans l'Église à la fois, et d'autre part des interpellations, des messages et des prophéties nous avertissant et nous rappelant à l'ordre de la part de la Vierge, de messagers du Seigneur, de vrais leaders spirituels de toutes les églises en aussi grand nombre depuis 50 ans et avec une concordance presque complète, non concertée et confirmée dans les cœurs d'une telle multitude du peuple de Dieu. Cela n'est jamais arrivé avant aujourd'hui. Jamais. Que ceux et celles qui veulent se le faire accroire pour mieux s'en distraire vivent leur illusion jusqu'au bout. Mais qu'on ne profite pas d'un poste de confiance pour tenter, et je dis bien tenter, de berner les autres. Cristallin, avec son plus beau sourire taquin, ajoute: lorsqu'un phénomène soi-disant de fin de siècle se déroule pratiquement depuis le début du siècle et n'a cessé de se développer intensément en crescendo durant pratiquement tout le siècle, c'est bien loin de ressembler à la psychose populaire de ces quelques dernières années des autres siècles précédents. Passons à l'objection D. À savoir, en Église, on s'intéresse trop au merveilleux, à l'extraordinaire. Mes chers amis, vous comme moi, nous sommes les premiers à reconnaître et à admirer même l'enthousiasme, l'émerveillement d'un professionnel heureux dans sa peau, dans la pratique de sa profession, qui va d'étonnement en étonnement, de découverte en découverte. Bref, qui trouve ça merveilleux, fantastique, passionnant. la même chose d'un passionné de la science, de la recherche. La même chose d'un grand artiste, musicien, peintre, comédien. On trouve normal et légitime leur découverte et appréciation du merveilleux, l'enthousiasme qu'ils ont, l'emballement qu'ils expriment, leur engouement même. Or, tout cela, dans tous ces cas, est pourtant de main humaine seulement, et pour le temps d'une vie terrestre. Tout ce merveilleux, cet émerveillement, si grand et beau soit-il, ont et auront leurs limites un jour. Alors que dans toute vie, en relation vraie et intimité vraie avec Dieu, le merveilleux a alors comme origine et comme fin Dieu lui-même, qui est tout-puissant, tout amour et sans limite. Comment alors croire ou tenter de nous faire croire que le merveilleux n'est pas, ou est de trop, ou n'a pas sa raison d'être, doit être ignoré, contenu, réprimé, étouffé? Allons donc. Ce n'est pas sérieux, ni honnête, même intellectuellement. C'est non seulement du contre-surnature, mais tout autant du contre-nature. L'authentique vie d'amour ou en amour avec son Dieu, Père, Fils et Esprit. C'est inévitable, il faut s'y attendre et s'en réjouir, ne peut conduire qu'à l'enthousiasme croissant, à l'émerveillement continu, et ce, ad vitam aeternam. Si un individu se dit comblé, émerveillé et bien dans sa peau de professionnel, d'artiste et de scientifique, alors que ses royaumes sont quand même terrestres, limités et éphémères, comment davantage sera enivré de joie, d'émerveillement, de découvertes incroyables, celui ou celle qui vit au jour le jour une relation intime d'aller-retour avec son Dieu infini, éternel, et tout amour, joie, paix et miséricorde, et entre de plus en plus profondément dans l'univers sans fin des merveilles divines sans fin. Il y a donc pour ces personnes des motifs innombrables et constants de s'extasier, de voir et de goûter en plein le merveilleux. Comment, je vous le demande, ne pas s'émerveiller, s'enthousiasmer, se laisser emporter quelque peu, quand on est bien né et bien portant spirituellement, par exemple, pour n'en donner rapidement que quelques-uns seulement, se laisser emporter par l'amour incroyable du Père, sa miséricorde infinie, par la vie, le message et les grâces de Jésus, par l'action, les lumières et la présence enivrante de l'Esprit-Saint, par l'affection, la médiation, les attentions surabondantes de la Vierge Marie, par le merveilleux de l'action repérable et appréciable des anges, des saints et des élus du ciel, par la multiplicité et la diversité des dons, des charismes, des libérations et des guérisons. Allons donc, si tout cela n'est pas de l'extraordinaire en plein, toute notre définition des mots est à repenser de A à Z. Il est sûr et certain qu'en Église comme ailleurs, on rencontre des illusionnistes et des illusionnés qui voient du merveilleux où il n'y en a pas, qui entendent des voix qui ne s'expriment pas, qui imaginent des visions, des guérisons, voire même des miracles. Mais je peux vous dire, après 47 ans de ministère sacerdotal, vraiment à l'écoute attentive et assidue des âmes, je peux vous dire que l'illusion ou l'illusoire, c'est le cas seulement de 5, 10, au grand maximum 15% des situations. Alors que dans un bon 85% des cas, après discernement spirituel sérieux, prié, prolongé, on retrouve toujours un ou des éléments valables qui en confirment l'origine et l'authenticité. À cause d'un manque d'une éducation en ce domaine, non seulement une éducation sérieuse, mais vraiment positive, sereine et confiante, une éducation qui s'intéresserait vraiment à repérer, accueillir, discerner, encourager, apprécier et se réjouir du merveilleux constant qu'il y a tant dans la vie du Christ et sa bonne nouvelle que tout normalement dans la vie de ses disciples qui y croient et en vivent, on en est arrivé, hélas, bien souvent, à cause de ce manque d'éducation, à se méfier, à douter a priori, à dénoncer, à repousser ces émerveillements légitimes et bienfaisants. Et ce sont précisément, selon une expression de Cristallin, ces froussards du merveilleux qui sont devenus nos porte-étendards de l'ennuyeux en Église, où tant de gens s'endorment ou s'embêtent, où tant de jeunes trouvent qu'il n'y a rien là, où le meilleur du vin du Seigneur est réduit en eau, quand il n'est pas tout simplement tourné au vinaigre, où la vie chrétienne devient fade, mièvre, éthérée, inodore, incolore et sans saveur. Il est grand temps de réagir. Maranatha, oui, reviens Seigneur, au plus tôt. Et maintenant, arrivons-en à la cinquième et dernière perle, à savoir qu'un prophète peut toujours se tromper. C'est vraiment une cocasserie à 5 étoiles. À ce propos, j'aurai 3 réflexions à partager si le temps encore disponible me le permet. Première réflexion. Un prophète peut toujours se tromper, a-t-on écrit ou dit ici et là avec le plus grand sérieux. Mais c'est une vérité de la palisse. D'aucuns diraient une évidence évidente. On ne peut vraiment pas dire que cette exclamation va constituer la découverte du siècle, ni rendre ses propagateurs instantanément célèbres. En effet, tout le monde en Église, comme dans la vie civile d'ailleurs, court continuellement le risque de se tromper. Un évêque peut se tromper, un cardinal aussi. Un saint prêtre, lui aussi, un prédicateur ou un directeur spirituel peuvent se tromper. Également, un berger ou une bergère de groupe de prière, un responsable de pastoral, un théologien, voire même un jésuite, un dominicain, un franciscain ou un bénédictin. Tous, mais tous peuvent se tromper. Nous sommes tous faillibles depuis le péché originel. Et pour un vrai prophète spirituel, c'est-à-dire choisi, préparé et inspiré par le Seigneur, les risques de se tromper ne sont pas plus grands que ceux de quiconque se dévoue en Église ou y exerce tout autre ministère ou autorité. Ces déclarations prophétiques sont habituellement plus étonnantes, plus percutantes et davantage hors série par rapport à celles des autres, c'est évident et inévitable, à cause de la nature même de sa mission. Mais cela ne diminue en rien la certitude profonde qui l'habite lorsqu'il proclame ce qui lui est dicté par l'Esprit-Saint. Et cela ne diminue en aucune manière l'accueil sérieux à accorder au message proclamé. Et lancer au hasard, comme on l'a fait, cette exclamation, à l'effet qu'un prophète peut toujours se tromper, sans rien préciser de particulier. C'est de la démagogie facile et mesquine, du dénigrement à peine voilé. Et c'est un moyen détourné de semer le doute, la crainte, la méfiance, comme on pourrait le faire à la suite de chaque déclaration épiscopale, papale, sacerdotale, pastorale. C'est malsain et pas très sain, S-A-I-N-T. Deuxième réflexion, je vais peut-être en surprendre plusieurs, et si oui, tant mieux, en affirmant que tous les prophètes spirituels, c'est-à-dire mobilisés et inspirés par l'Esprit du Seigneur, et en particulier ceux et celles qui sont conscrits, je dirais, à temps complet, car l'Esprit Saint entend parler non seulement à travers ce qu'ils disent ou écrivent, mais tout autant à travers ce qu'ils font et ce qu'ils sont, ces prophètes spirituels, et j'en connais de très nombreux à travers le monde, de façon générale, à cause précisément de la délicatesse même de leur mission et de la responsabilité qu'ils portent, prennent habituellement des précautions toutes spéciales pour demeurer en pleine vitalité et authenticité prophétique, comme par exemple des temps assidus d'adoration et de contemplation, du temps de jeûne et de mortification, des temps d'écoute, de consultation, de discernement spirituel et communautaire souvent prolongés. Autant de mesures et de garanties préventives qu'on ne retrouve pas nécessairement chez tous les pasteurs, prédicateurs, leaders spirituels très actifs. On peut donc dire en toute vérité et réalité, et avec la simplicité et l'humilité requises, que parmi les cinq grands ministères souvent évoqués par saint Paul, et je cite Éphésiens 4, 11, et c'est lui le Christ qui a donné certains comme apôtres, d'autres comme prophètes, d'autres encore comme évangélistes, d'autres enfin comme pasteurs ou comme chargés de l'enseignement. Fin de la citation. Compte tenu des mesures et précautions spirituelles dont il s'entoure régulièrement et dont je viens de parler, on peut affirmer que le ministère exercé par les vrais de vrais prophètes spirituels est sûrement, parmi les cinq dont parle saint Paul, l'un des plus constamment supervisés par l'Esprit, qui voit de près à ses propres intérêts, c'est bien évident. L'un des ministères les plus continuellement ressourcés spirituellement, et par voie de conséquence, l'un des plus sécurisants, tant pour les titulaire que pour ses bénéficiaires. Troisième et dernière considération. Quand quelqu'un fait une déclaration écrite ou orale et se donne la peine d'indiquer sa source en toute honnêteté, non seulement intellectuelle, mais morale également, il importe, avant d'affirmer ses réserves, ses dissidences ou son opposition, d'aller vérifier soi-même d'abord et directement à la source indiquée. Ainsi, par exemple, si un théologien interprète saint Augustin ou saint Thomas d'Aquin et leurs œuvres, on s'en référera normalement aux écrits de ces deux grands saints, à leur propre prise de position, avant de juger si le théologien en question a raison ou non. D'accord? Or, un vrai de vrai prophète, dit spirituel, c'est-à-dire mobilisé, mandaté et inspiré par le Seigneur, ne cache jamais sa source unique et divine, à savoir l'Esprit de Dieu qui souffle où il veut, quand et comme il veut. Deuxième épître de saint Pierre 1, 21. Ce n'est pas la volonté humaine qui a jamais produit une prophétie, mais c'est porté par l'Esprit Saint que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Fin de la citation. Il est donc impératif pour chacun et chacune qui se veut moralement et intellectuellement honnête de s'adresser directement à cette même source, d'abord, avant tout et avant tous, pour vérifier l'authenticité et la véracité tant du message que du messager, avant d'émettre la moindre réserve ou opposition. Une prophétie et un prophète spirituel ne peuvent jamais se discerner correctement par simple jugement humain naturel, simple flair, à vue de nez ou au pifomètre. Seul l'esprit peut nous l'authentiquer ou authentifier, les deux se disent, à la fois le message et le messager. Et voilà qui conclut notre chapitre 6, la première partie de cet enseignement, de ce partage fraternel. Ce que je trouve inquiétant et décevant concernant les 5 prétendues objections, plutôt cocasses, que nous venons de réfuter l'une après l'autre, c'est le fait qu'elles n'ont pas été et ne sont pas formulées par des amateurs et des non-initiés, mais au contraire, par des hommes et des femmes reconnus, du moins jusqu'à présent, soit pour être des maîtres spirituels, des personnes instruites, intelligentes, savantes même, habituellement appréciées pour leur jugement et leur prudence. Que de tels arguments superficiels et bizarres aient été soulevés par ces hommes et femmes d'Église, dont certains prélats, m'étonne et me chagrine. Et vous aussi, sans doute. Et l'on me fait signe que le temps est écoulé. Amen.